Le roi, qui aimait à bâtir et qui n'avait plus de maîtresse, avait abattu le petit Trianon de porcelaine qu'il avait pour Madame de Montespan et le rebâtissait pour le mettre en l'état où on le voit encore. Louvois était surintendant des bâtiments. Le roi, qui avait le coup d'œil de la plus fine justesse, s'aperçut d'une fenêtre de quelque peu plus étroite que les autres. Les trémeaux ne faisaient encore que de s'élever et n'étaient pas joints par le haut. Il la montra à Louvois pour la réformer, ce qui était alors très aisé. Louvois soutint que la fenêtre était bien. Le roi insista, et le lendemain encore, sans que Louvois, qui était entier, brutal et enflé de son autorité, voulût céder. Le lendemain, le roi vit le nôtre dans la galerie. Quoique son métier ne fût guère que les jardins, où il excellait, le roi ne laissait pas de le consulter sur ses bâtiments. Il lui demanda s'il avait été à Trianon. Le nôtre répondit que non. Le roi lui ordonna d'y aller. Le lendemain, il le vit encore. Même question, même réponse. Le roi comprit à quoi il tenait, tellement qu'un peu fâché, il lui commanda de s'y trouver l'après-dîner même, à l'heure qu'il y serait avec Louvois. Pour cette fois, le nôtre n'osa y manquer. Le roi arrivé et Louvois présent, il fut question de la fenêtre que Louvois opiniâtra toujours de largeur égale aux autres. Le roi voulut que le nôtre l'allât mesurer parce qu'il était droit et vrai et qu'il dirait librement ce qu'il aurait trouvé. Louvois piqué s'emporta. Le roi, qu'il ne fut pas moins, le laissait dire et cependant le nôtre, qui aurait bien voulu n'être pas là, ne bougeait. Enfin le roi le fit aller et cependant Louvois, toujours à gronder et à maintenir l'égalité de la fenêtre, avec audace et peu de mesure. Le nôtre trouva et dit que le roi avait raison de quelques pouces. Louvois voulut imposer, mais le roi, à la fin trop impatienté, le fit taire, lui commanda de faire défaire la fenêtre à l'heure même, et, contre sa modération ordinaire, le malmena fort durement. Ce qui outra le plus Louvois, c'est que la scène se passa non seulement devant les gens des bâtiments, mais en présence de tous ceux qui suivaient le roi en ses promenades, seigneurs, courtisans, officiers des gardes et autres, et même de tous les valets, parce qu'on ne faisait presque que sortir le bâtiment de terre, qu'on était de plein pied à la cour, à quelques marches près, que tout était ouvert et que tout suivait partout. La vépris fut forte et dura assez longtemps, avec les réflexions des conséquences de la faute de cette fenêtre qui, remarquée plus tard, aurait gâté toute cette façade et aurait engagé à l'abattre. Louvois, qui n'avait pas accoutumé d'être traité de la sorte, revint chez lui en furie et comme un homme au désespoir. Saint-Pouange, les Tilladés et ce peu de familiers de toutes ces heures en furent effrayés et, dans leur inquiétude, tournèrent pour tâcher de savoir ce qui était arrivé. À la fin, il le leur conta, dit qu'il était perdu et que, pour quelques pouces, le roi oubliait tous ses services qui lui avaient valu tant de conquêtes, mais qu'il y mettrait ordre et qu'il lui susciterait une guerre telle qu'il lui ferait avoir besoin de lui et laisser là la truelle. Et de là s'emporta en reproche et en fureur. Il ne mit guère de temps à tenir parole. Il enfourna la guerre par l'affaire de la double élection de Cologne, du prince de Bavière et du cardinal de Fürstenberg. Il la confirma en portant des flammes dans le Palatinat et en laissant toute liberté au projet d'Angleterre. Il y mit le dernier sceau pour la rendre générale et, s'il eût pu, éternelle, en désespérant le duc de Savoie, qui ne voulait que la paix, et qu'à l'insu du roi il traita si indignement qu'il le força à se jeter entre les bras de ses ennemis et à devenir après, par la position de son pays, notre partie la plus difficile et la plus ruineuse. Tout cela a été mis bien honnête depuis.